Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Henri Sédoux, qui est le fondateur de Parotte et qui était déjà parti à fond alors que je n'avais pas lancé l'enregistrement. Salut Henri.
Salut.
Est-ce que d'abord, première question, je peux te demander de te présenter?
Alors, je suis un homme blanc de 1m83, de 57 ans, parisien de naissance et... J'ai pas fait d'études, je me suis inscrit en médecine et puis c'était la fin des années 70, alors j'ai directement fait deux choses et je suis sorti en boîte de nuit et je voulais être journaliste, ce qui était une sorte de rêve d'enfance, mais malheureusement je suis assez dyslexique et j'avais pas fait le point que ça vraiment ça me bloquerait. Donc j'ai rencontré Jean-François Bizot qui remontait Actuel dans une boîte de nuit qui s'appelait le Palace et je l'ai fait marrer, peut-être, en tout cas il m'a embauché Actuel et au moins j'ai vécu mon rêve, c'est-à-dire que pendant 6 mois j'ai été journaliste et j'ai bien compris qu'il fallait que je fasse autre chose.
Quand on cherche un peu sur ta jeune vie, en tout cas, c'est toujours très lié au Palace. Enfin, c'est quelque chose. Tu dis aussi assez tôt dans la manière dont tu te présentes les boîtes de nuit, quoi.
Ben, si tu veux, les boîtes de nuit, dans la géographie des boîtes de nuit qui comptait pour nous, enfin nous, moi et mes amis. En 1978 jusqu'à 1980, si tu veux, c'est les bains-douches et le Palace. Le reste, ça n'existait pas vraiment. Mais effectivement, les 6 mois que j'ai passés à Actuel, bon, avant j'avais fait des stages, et le fait d'avoir rencontré des tas de gens à qui tu as accès dans les boîtes de nuit, c'est-à-dire au Palace, on croisait à la fois Mick Jagger, Karl Lagerfeld, et puis aussi toutes sortes de gens qui sont devenus des designers, des affichistes, des graphistes. Et donc, il y avait quand même un souffle un peu, pour moi, un peu comme la dernière avant-garde parisienne, comme le dernier, pour moi, le Palace des années, fin des années 70, c'est-à-dire 78, 80, parce que je suis sorti dans les boîtes de nuit, mais pas très longtemps, hein. Je me suis mis vite à travailler, eh bien, c'était comme une avant-garde des années 30 ou des années 20. On rencontrait, à un moment donné, dans la fête, dans la soirée, des gens de tous horizons qui avaient tous vraiment beaucoup d'énergie.
Et ça, en effet, j'ai l'impression que, en tout cas sous forme de boîte de nuit au moins, on n'a pas revécu complètement ça depuis.
Enfin, ça, je ne peux pas te dire. Parce ouais. Après, qu'est-ce qui s'est passé en ce qui me concerne? Donc, je commence à travailler au Journal Actuel. J'y suis assez malheureux parce que je ne suis vraiment pas doué. Et en plus, je me découvre, si tu veux, je découvre des aspects de ma personnalité où j'ai quand même, moi, du mal à avoir des rapports humains très fluides avec les gens. Je suis pas... j'ai beaucoup d'amis, mais ça me prend beaucoup de temps d'avoir des amis. Je ne suis pas d'un relationnel hyper rapide. Donc, et quand tu es journaliste, il vaut mieux avoir une grande facilité de nouer des relations avec les gens. Donc ça, je n'avais pas ça. Mais par coup de bol, j'ai rencontré quand j'étais actuel, parce que je voulais faire un article sur, sur lui, en fait, j'ai rencontré Roland Moreno, qui est l'inventeur de la carte à puce, à vraiment à l'époque où c'était une start-up, c'est-à-dire qu'il bossait chez lui et il avait développé les concepts et les brevets de la carte à puce et il commençait à fabriquer les premières cartes à puce. Et c'est lui qui m'a
dit... Une vraie icône hein, dans les entrepreneurs français de, des années 80-90.
Un
monstre, quoi.
Un truc génial. Génial. Le mec a quand même inventé la carte à puce dans sa cuisine, ouais. sans diplôme d'ingénieur. Donc, et le mec, hyper sympa, hyper fin. Et donc, il me dit, tu sais, toi, t'es journaliste actuel. Moi, tu sais, j'étais coursier à l'Express. Et mon rêve, c'était de faire des inventions. Et tu sais, c'est vraiment les ordinateurs, c'est vraiment pas compliqué. Il y a ces nouveaux machins qui viennent de sortir. Là, je sais pas comment ça s'appelle. Là, je crois que ça s'appelle Pomme ou je sais pas quoi. Apple. Là, regarde ça et tu verras. T'achètes le truc, tu lis la doc. Je veux dire, si t'as le bac, il y a aucun problème. T'arriveras à programmer le machin. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé sous ses conseils. Comme ça marchait pas trop actuel et que je chantais le vent tourné, j'ai acheté un Apple II et j'ai appris à programmer.
Tout seul ?
Ben, tout seul.
Avec des bouquins, enfin...
Ben, avec des bouquins, ouais. Et les bouquins, les journaux. Mais si tu veux apprendre à programmer, en 6 semaines, tu sais comment... tu connais les bases. Les bases de la programmation, c'est très simple, en fait. Donc j'ai appris d'abord à programmer en basique et puis après à programmer en assembleur et puis j'ai assez vite trouvé du boulot
là-dedans
parce que on était au tout début des années 80 et que la micro-informatique arrivait et que les entreprises elles avaient besoin de types qui savaient programmer les micro-ordinateurs rapidement, donc j'ai rapidement trouvé du boulot. Et puis, j'ai découvert que j'étais doué pour ça, alors que je n'étais pas doué pour être journaliste. Et donc, j'ai codé. J'ai codé nuit et jour. Et puis, j'ai adoré ça.
Et donc, du coup, tu te retrouves quand tu fais ça au milieu d'ingé, de gens surdiplômés, de choses comme ça? Ou à l'époque, c'était vraiment aussi des autodidactes?
Donc, au début, je bosse dans... je fais des petits boulots et puis des moyens boulots pour une boîte de service. Voilà. Et... Alors, je ne veux pas te dire d'ânerie, mais je dirais vers 82 ou 83, j'apprends qu'il y a je crois pas que c'était un prof, je crois qu'il s'occupait d'informatique à l'école des mines, qui monte une start-up en fait, un monsieur d'une cinquantaine d'années qui monte une start-up et qui cherche des programmeurs, et le mot start-up n'existait pas. Et donc, en fait, un fonds d'investissement en capital risque corporate de ELF avait financé ce professeur qui s'appelait Prof Midzi. François Midzi voulait faire des ordinateurs de poche dans l'idée que les ordinateurs de poche, eh ben, ça permettrait de démocratiser énormément l'éducation. Et donc ça, c'est un projet de 1982. Et il a eu, pour l'époque, beaucoup d'argent, puisque à l'époque, c'était 6 millions de dollars. À une époque où le dollar était à 11 francs, donc le dollar valait très cher. Et il avait embauché comme directeur technique un ingénieur français qui s'appelle Jamal Berber, qui lui avait bossé à l'INRIA, et dans un projet qui s'appelait Kayak. Et si tu veux, le projet Kayak, ça consistait à faire dans le labo de recherche gouvernementale un truc qui était très très proche de ce qui est devenu le Macintosh 4 ou 5 ans après. C'est-à-dire que les principes de la programmation objet, les principes des operating systems à fenêtre avec icônes, orienté, graphique, où tout est fait par une bitmap, eh ben, ils étaient déjà connus de à l'INRIA et le directeur technique du projet de cette proto-startup en 1983, ben, il connaissait bien cette technologie. Et donc, moi, j'ai été embauché un peu par hasard, parce que le professeur Midzi, il choisissait ses programmeurs, si tu veux, avec pas mal d'intuition. Et donc, j'étais le seul non-ingénieur de toute l'équipe.
Et je précise, quand tu parles d'objets, de fenêtres, et à cette époque, pour dialoguer avec un ordinateur, il fallait écrire des lignes de commande, c'est ça, hein, fallait lui dire où est-ce qu'on allait chercher des choses. Il n'y avait pas forcément de Windows.
C'était vraiment... Non, il n'y avait pas Windows. Il n'y avait pas Windows. Et même les operating systems de l'époque, je te parle avant le DOS 1.2, hein, parce que moi, j'ai vu, c'était un peu avant... C'était vraiment rustique. Hein. C'était vraiment rustique. D'ailleurs, on ne développait pas sur micro-ordinateur vraiment. On utilisait une chaîne de développement Intel qui s'appelait PLM, qui marchait sur des stations de développement Intel. Enfin, c'était assez lourdingue de développer. Enfin, grosso modo, je me retrouve dans une proto-startup avec un directeur technique qui connaissait bien les concepts modernes qui sont devenus les concepts à succès de la micro-informatique. Et j'étais la dernière roue du carrosse. Ils sortaient tous ou de Supélec ou de l'école des mines, des grandes écoles d'ingénieurs. Et on me donnait les bouts de code à faire, les moins difficiles, si tu veux. Mais ça faisait déjà au moins 3 ans que j'étais un programmeur professionnel. Et si tu veux, moi, je n'ai pas appris vraiment... je n'ai pas fait d'études d'ingénieur. Mais entre 19 ans et 23 ans, j'ai écrit beaucoup de code. Des programmes, des fois, dans la nuit, si tu veux.
Et ce qui est intéressant...
De tous ces ingénieurs, le seul qui codait vite et bien, c'était moi. Donc, je codais vite et bien, et ça a toujours été mon goût. C'est-à-dire, j'ai toujours fait très, très attention au debug, à la qualité du code. Et donc, finalement... je suis devenu le lead développeur, j'ai écrit tout l'operating system, vraiment j'ai passé 2 ans à MicroArchi, les plus formatrices qu'on peut rêver, dans aucune école d'ingénieur au monde j'aurais eu ça. Et ce qui s'est passé, c'est que quand la boîte a épuisé son financement, Jamal Berber, qui était le directeur technique, et moi, j'ai monté ma première start-up avec lui.
Et du coup, dans ce contexte, tu n'as pas de complexe finalement, je veux dire, à ce moment-là, parce que tu codes aussi bien, voire mieux,
Non, mieux. mais j'ai pas de complexe. Ne crois pas ça.
C'est pour ça que je te pose la question, entremettons.
Si tu veux, maintenant que l'histoire a bien tourné, tu sais, quand tu as 20 ans, que tu cherches à débuter une carrière professionnelle, que tu as déjà merdouillé le truc de journalisme, non, j'en menais pas large. Mais j'ai découvert que, j'avais des facilités, et j'ai découvert que les facilités, ça offre un autre truc qui est inattendu, c'est quand tu as des facilités pour un truc, ça te donne de la puissance de travail. Parce que si facile, donc moi, ça m'a jamais dérangé de programmer toute la journée, puis si c'est pas fini, d'y passer la nuit, puis le lendemain, j'ai fini. Oui, et donc, en 24 heures, je faisais quand même le travail d'une semaine pour...
Tu bossais comme un chien.
Ouais, mais j'aimais ça, donc ouais. Je dirais pas comme un chien, je dirais... si tu veux, je me suis certainement réfugié dans le travail, et c'est sûr, parce que après, maintenant, tu vois, maintenant, aujourd'hui, j'ai 57 ans, je vois tout ça avec pas mal de recul. Bon. J'ai des gosses, j'ai eu des gosses très tôt. Pour moi, si tu veux, j'ai pas été un bon père quand même. Tu vois, même si j'ai des bons rapports avec mes enfants, même si on s'entend bien, je ne sais pas vraiment être un bon père. J'étais un bon geek, mais un mauvais père. Donc,
à cause du temps que tu leur as pas donné ?
Non, c'est pas aussi simple. Mais enfin, il s'est trouvé, si tu veux, que j'ai foutu toute mon énergie à bosser. Et donc, je leur ai pas donné de temps, mais est-ce que j'aurais su leur en donner? Je suis un mauvais père parce que ça m'est plein de choses qui me sont difficiles. Tu vois, je m'exprime pas aussi facilement quand il s'agit de questions intimes.
Et ce qui est intéressant, alors pour revenir sur cette première expérience, c'est que c'était déjà du hard en fait.
Voilà, t'étais dans le soft. Exactement. Moi, je suis un développeur de soft. Moi, mon métier, ce que je connais, c'est le soft. Mais j'ai toujours fait du soft qui, au fond, anime une machine. Et ça a toujours été mon truc au fond. C'est-à-dire
je retranscris donc le soft, hein, juste, excuse-moi parce que je suis parti sur hard, mais le soft, donc c'est le code, tout le logiciel développé pour animer une machine physique, ce qu'on va appeler du hard, voilà.
Voilà.
Du hardware.
Et donc le hardware. Donc ce qui me plaît, bah, c'est la fonction, c'est à quoi ça sert. Mais c'est aussi le truc de faire un business. Tu vois, comme, disons, je suis comme un petit peu autiste sur les bords, eh bien, tu vois, faire un business purement de soft, malgré tout, c'est quoi le soft ? C'est la boîte de service, tu vois, les gens principaux qui font du soft en Europe, ben, ils travaillent pour des clients, si tu veux. Donc, il n'y a pas une grande, grande industrie du software indépendant. Donc, si tu veux faire du soft, ben, le truc marrant, c'est le truc qui permet de faire du business, c'est de vendre des bidules. C'est dur, c'est très difficile, avant l'Internet, de
vendre des logiciels.
De vendre des logiciels. C'est très, très difficile, beaucoup plus difficile que de vendre des bidules. Donc, ouais, j'ai toujours aimé faire le soft des bidules. J'ai toujours aimé inventer un bidule grâce au soft.
Ce qui est intéressant, c'est cette relation aussi entre le code et l'interaction dans le monde réel aussi. J'imagine, enfin, le truc très gratifiant dans cette approche, quoi. On parlera des drones
Mais c'est bien ça qui est intéressant dans le soft, si tu veux. C'est que le soft, c'est un truc un peu abstrait, assez simple à la base. Mais son interaction avec le réel, ça le rend puissant, tu vois, et c'est ça tout son intérêt.
Et tu te définis comme un peu autiste sur les bords, c'est un truc que tu as toujours réalisé, que tu as compris tardivement?
Non, j'ai compris tardivement, oui. J'ai compris, et c'est pas, bon, c'est comme ça, quoi, je veux dire, et je l'ai toujours été, donc en même temps, aussi, j'ai de nombreux amis, je suis pas malheureux dans une grande fête, je m'exprime assez facilement s'il s'agit de parler à la télé ou un truc comme ça, mais tout me prend beaucoup de temps, tu vois, pour me lier d'amitié avec quelqu'un, ça m'est difficile, il faut vraiment que je me force, etc., etc.
Et pas dans le business, je veux dire, par exemple, pour prendre des décisions dans le
business, j'ai énormément de mal, tu vois, à avoir j'y arrive parce que je me force, mais avoir des relations avec les clients, c'est pour ça que moi j'aime bien faire du B2C, c'est-à-dire inventer un truc et le vendre tel qu'il est, tu vois, j'ai beaucoup de mal à me plier au cahier des charges d'un client. Et puis quand même, tout mon truc, c'est basé sur l'imagination. C'est-à-dire, moi, ce que j'essaie, c'est de nourrir mon imaginaire, d'essayer de le comprendre, tu vois, c'est de fonctionner avec l'imaginaire. Donc, c'est difficile de mettre son imaginaire au service de quelqu'un. C'est plus facile de développer son imaginaire et de trouver des gens qui apprécient ton imaginaire. Tu vois.
Toute la difficulté du métier d'agent, c'est de vendre des prestations intellectuelles et voilà, pour un client.
Moi, je suis un très mauvais agent de moi-même. Très, très mauvais.
Donc, si on revient en quoi, 84, 85, Jamal et toi, première start-up.
Donc,
première start-up.
Une première boîte, une première start-up. Et donc, l'idée, c'était de commercialiser l'operating system orienté objet avec fenêtres et icônes qu'on avait écrit pour MicroArchi. On a été négocié avec les investisseurs de la startup, etc., pour avoir la licence. Et puis après, on est parti à la Silicon Valley, on l'a montré à tout le monde. À cette époque-là, on l'avait montré. En particulier à Apple, à John Sculley, qui devenait le patron d'Apple. Et en fait, ils ont proposé de nous embaucher. Plusieurs fois, ils ont proposé de nous embaucher, et mais nous, on voulait monter notre boîte, donc.
Donc c'était un Windows, hein, en gros, que tu vendais. Enfin, j'exagère un peu, mais.
Non, t'exagères. mais c'était ça. C'était comment faire des icônes et des fenêtres et sur une petite machine portable. En fait, bien que ce soit rustique, ça ressemble pas mal à Android. Donc, en quoi ça ressemble à Android? Android, c'est basé sur Linux, donc un noyau très complet. Bon, nous, on avait un petit noyau temps réel, mais multitâche, multithreadé, qu'on avait écrit. Et puis, par-dessus, on avait un OS complet, un framework, donc complet, avec un SGF, des fenêtres, des icônes.
Va pas trop loin, parce que là, tu perds 90%,
donc,
y compris moi.
Donc, je perds 90% des mecs.
Y compris moi.
Et par-dessus, on avait un langage interprété, voilà. Et donc, en fait... On a fait en miniature une sorte d'Android au début des années 80.
D'accord. Pour des personal computers, quoi, pas pour des, évidemment.
Exactement. Pour des trucs portables. Ouais.
D'accord.
Et donc, si tu veux, j'ai eu la chance de savoir faire un truc techniquement, et c'est moi qui ai écrit quand même la plus grosse partie de cet operating system, qui, pendant les 20 années suivantes, a connu un développement extraordinaire, ou même les 30 années suivantes. Donc, si tu veux, j'ai pas fait d'études, mais j'ai quand même eu la chance de tomber sur cette start-up, de faire un truc qui n'a pas été vendu, mais si tu veux, techniquement, j'ai connu l'informatique vraiment de très bon niveau des années 80.
Mais c'est une question qui se pose aussi, parce qu'on peut dire que tu n'as pas fait d'études, ok, techniquement, en termes de... Tu n'as pas de diplôme. Après, je pense que ces années, c'est un apprentissage lourd. C'est une question qui se pose dans pas mal, dans toujours dans les métiers du code, c'est se dire est-ce qu'un ingénieur bac plus 5 vaut plus que en dev que un autodidacte qui a 10 ans d'expérience qui
alors,
s'est arraché 24 sur 24.
Alors sincèrement, poser la question comme ça, c'est difficile d'y répondre. Moi, je dirais quand même qu'il y a un truc qui est bien dans le code pour les gens qui en font, c'est qu'un code, c'est de l'écriture. Et donc c'est un peu comme un écrivain. Tu sais pas pourquoi, c'est vrai pour les journalistes aussi, bah, tu as des bons écrivains et puis des écrivains moins bons, si tu veux. Et donc, tu dois quand même, ta manière d'écrire, ta manière de concevoir le problème, de le contourner, de le contenir avec des mots, eh bien, faire du code, c'est un peu la même chose, sauf que ton problème est un problème... ou plus mécanique ou plus mathématique, mais c'est un peu ça. Et donc tu as des bons écrivains qui ont fait des études et des bons écrivains qui n'en ont pas fait, il y a pas de c'est pas le critère, quoi. Mais faire du code, c'est d'une certaine manière être un écrivain de code.
C'est une belle perspective, je trouve. Ta start-up avec Jamal, elle s'appelait comment?
Elle s'appelait BBS.
BBS.
Ouais. Elle a pas duré très longtemps parce que on ne s'est pas entendu.
D'accord.
Et
vous étiez
assez
deux.
Vite, on était deux, ouais. Et donc après, j'en ai monté une autre. Alors, j'en ai monté une pour gagner ma vie.
Et juste pour revenir sur, c'est vous l'avez planté la boîte
Non, Jamal l'a continué. J'ai refilé mes parts et il l'a continué pendant plusieurs années. Jamal était très fort, très très fort techniquement. Bon, business moins fort. Okay. Donc après, j'en ai monté une. Après, je me suis mis, si tu veux, comme développeur à mon compte. Alors, évidemment, j'ai appelé la boîte SoftSedu. Et donc là, je développais...
C'est mignon.
Ouais, c'est rigolo, ouais, c'est un bon jeu de mots. Je développais du code. Et puis surtout, moi, j'ai une deuxième passion qui me date de l'enfance aussi. J'ai une passion pour la peinture et les arts graphiques, etc. Et donc, j'avais un ami.
On voit ça, je suis dans le bureau de
voilà, il y a des tableaux partout.
On a des tableaux partout qui sont magnifiques, d'ailleurs, je dois dire.
Alors, une grosse, grosse collection de tableaux africains contemporains. Vraiment, vraiment, j'y passe beaucoup de temps. Et alors là, j'invite tout le monde à venir dans mon bureau parce que j'ai vraiment des tableaux à tout casser.
C'est sûr, hein. Tu vas avoir du monde.
À tout casser. Hein. Bon, alors, j'avais un ami qui était architecte et dessinateur de bande dessinée. Et on s'est lancé un peu par passion. En se disant, on va faire une boîte de computers graphiques. On ne s'y connaissait vraiment pas beaucoup au début, et donc on a commencé à s'intéresser. Moi, je ne venais pas de là du tout, hein, je venais du monde des operating systems. Et donc, j'ai commencé avec lui à écrire des softs de 3D et à faire de la 3D pour la pub, pour le cinéma, pour la télé. Et ça, ça a été ma deuxième grosse expérience. Ça s'appelait BSCA. Ça, ça a daté, je ne veux pas te dire d'ânerie, mais je pense de 1985 à 1990. Donc, j'y ai passé 5 ans. C'était ma première vraie start-up. Et là, j'ai appris quand même à monter une dans l'échec, si tu veux, mais à monter une start-up, à recruter les gens, à organiser les équipes, à commercialiser les produits. Enfin, j'ai fait ma première start-up. Et puis, c'était un peu laborieux. Puis j'ai eu un drame familial. Ma mère s'est suicidée, ma start-up ne marchait pas bien. Donc, j'ai eu comme un gros coup de blues. Et donc, j'ai arrêté BSCA, j'ai donné en fait mes parts à Pierre Buffin. Et là, Pierre Buffin a fait un très très grand succès. Il a rebaptisé l'entreprise Buff et c'est lui vraiment qui a fait un très grand succès. C'est un très très bon dessinateur, il est un très très bon graphiste et il a été... Un des leaders mondiaux des effets spéciaux par ordinateur dans le cinéma. Il a travaillé pour énormément de films à Hollywood, pour énormément de films en France. La boîte s'appelle Buff.
Elle existe toujours. D'accord.
Donc, si tu veux, ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, malgré que j'ai passé les 5 premières années à monter la boîte et qu'au début, on galérait, en fait, on avait réussi. En fait, on avait fait le trou. En fait, si tu veux, ça m'a quand même donné confiance en moi. Alors après, troisième truc entrepreneurial.
Donc là, on est en 90.
On est en 90, ouais.
Et tu quittes quand même, t'es au fond du trou. Enfin, je veux dire...
Au fond du trou, je suis démoralisé, etc. Et j'ai arrêté ma deuxième startup. Et qu'est-ce que je fais ? Ben, j'ai un copain qui est dessinateur freelance dans la mode et à qui j'ai dit, comme j'étais un peu l'entrepreneur de la bande, tu sais, le jour où tu voudras te lancer, je t'aiderai. Et donc, avec ce copain et une troisième personne, on a monté une boîte de mode parce que lui était dessinateur freelance dans les accessoires de mode, les chaussures pour femmes. Et donc, on a monté la boîte et, si tu veux, pendant 1 an et demi, 2 ans, j'ai participé vraiment au lancement, au démarrage de cette boîte. Et donc, mon copain s'appelle Christian Louboutin. Maintenant, ça a été une grande réussite. Donc, si tu veux, ma première startup qui a vraiment marché, elle n'était pas dans le domaine du computing, mais dans la mode.
Et c'est un sacré succès.
Et donc, ça a été un super succès, année après année. Et donc,
pour les plus geeks masculins d'entre nous qui ne connaissent pas Louboutin, je précise que c'est... probablement dans le luxe de la chaussure pour femmes, un des plus grands créateurs de chaussures, les plus parmi les plus chers. Enfin, c'est pas donné, mais ça marche très fort, je crois.
Écoute, c'est un grand succès. C'est une nouvelle marque. Il y a très peu de nouvelles marques qui se créent malgré tout dans la mode. Et Christian, il a à la fois le talent et le sens du business et le sens de la marque pour avoir créé cette marque. Et donc, ça a été un très grand succès.
Et tu fais quoi, toi, chez Louboutin pendant 3 ans ? Au
début, il faut structurer le business, il faut chercher les fournisseurs, il faut faire la structure de prix, il faut regarder comment on s'organise, il faut faire tout ça.
Là, tu fais plus de soft du tout, plus rien.
Non, je fais plus de soft du tout. Et je te dis, pendant 1 an et demi, je fais tout le business développement avec lui. Et si tu veux, la boîte émerge... comme une start-up. Au début, on est tous les deux, et puis il y a une vendeuse, et puis voilà.
Vous avez une boutique physique ?
On a une boutique physique. C'est la première décision que j'ai prise d'une certaine manière. Je dis maintenant, avant de commencer, il faut qu'on ait un point de vente. Et donc, le premier investissement, le premier truc, ça a été d'avoir une boutique.
C'était où ?
C'est là, elle est toujours là-bas, c'est rue Jean-Jacques Rousseau.
D'accord, très bien. Dans le premier. D'accord, fantastique. Et donc, tu es toujours actionnaire de Louboutin ?
Non, je ne suis plus actionnaire de Louboutin depuis 2 ans. Bon, la boîte a pris son essor et donc, si tu veux, il n'y avait plus de raison que je ne travaille plus du tout avec lui, etc. Donc, j'ai vendu mes parts.
D'accord. Donc, tardivement, déjà bien après l'énorme succès.
Au bout de 25 ans de développement de la boîte.
D'accord. Et du coup, t'as jamais. Il y a des chaussures pour hommes.
Ouais, il y a des chaussures pour hommes. C'est il y a des chaussures pour femmes et il y a une gamme pour hommes.
Je l'ai vu. Je l'ai vu sur ton Twitter.
Voilà, qui existe depuis maintenant 7-8 ans, qui a un grand succès aussi.
D'accord. Tu en portes du coup?
De temps en temps. Tiens, moi, je suis très. Ma manière de m'habiller est assez neutre. Hein. Je ne suis pas du tout.
Extravagant.
Extravagant dans la manière de m'habiller. Donc là, on se retrouve en 94.
Et
donc,
le succès, juste pour Louboutin, excuse-moi, mais il est immédiat ?
Non. Je n'ai jamais vu de succès immédiat. Ouais. C'est-à-dire, il faut. Je pense qu'il faut attendre. 5 ans, si tu veux, pour que déjà pour que ça marche, si tu veux. Je pense que c'est dur de faire en moins de 5 ans. Hein. Et puis après, ça s'est développé très vite, en fait. Mais ça s'est développé, ça a fait une croissance de 30 ou 40% par an pendant 20 ans.
Et quand tu dis, tu penses qu'il faut 5 ans, c'est pour des produits grand public, c'est pour une structure dans l'absolu, c'est ce que tu as remarqué à peu près ou...
Ah ouais, bon, il faut entre 5 et 10 ans. Pour monter une boîte, si on veut monter une start-up, faut bien se dire qu'il faut pouvoir s'y coller pendant entre 5 et 10 ans. Je pense qu'il y a des pays en Amérique où il y a une grosse population de start-up, où il y a aussi une grosse activité autour des start-up, les acheter, les revendre, les incorporer au grand groupe, ça peut aller plus vite. Tu peux monter une startup dans la Silicon Valley et au bout de 3 ans, la vendre pour un prix vraiment intéressant à Facebook ou à YouTube.
Mais ce n'est pas pour autant qu'elle réussira derrière et qu'elle sera connue.
D'accord, mais pour l'entrepreneur, c'est souvent un des objectifs que tu peux avoir. Ça dépend de quelle est la nature de ce que tu fais. En Europe, ce genre de succès, je ne pense pas qu'il y en ait eu. Ou en tout cas, si on a eu, ce sont des exceptions.
D'accord. Et donc, du coup, là, on arrive à Parrot, déjà.
Alors, à Parrot. Alors, donc, Parrot, bon, ça me démange quand même après avoir démarré l'affaire avec Christian. Et donc, ça me démange de refaire du code, etc.
Sachant que là, à chaque fois, tu ne tires pas d'argent, ton père, ou t'en... Enfin, mais tu
ouais, enfin, j'ai des hauts et des bas.
Tu gagnes un peu d'argent sur tes structures, mais tu sors pas avec un exit, quoi.
Non, pas d'exit, je rame.
Ouais.
Je rame. Hein. Et donc, en 1994, je crée Parrot sur une idée... qui est que la reconnaissance vocale, eh bien, on peut en faire un produit grand public. Et donc, la boîte s'appelle Parrot à cause de ça. C'est, tu parles à la machine et la machine est comme un perroquet et elle te répond. Donc, on fait des drones et c'est marrant parce que les drones volent comme les parrots. Mais en fait, c'est à cause du fait que le parrot, c'est l'oiseau qui parle, que la boîte s'appelle Parrot.
Et... t'es quand même du coup hyper visionnaire et à la fois carrément trop tôt, non, j'imagine, parce que enfin j'ai l'impression que la reconnaissance vocale, alors peut-être que ça a fonctionné dans des laboratoires de recherche, mais la vraie explosion grand public, elle l'a dit il y a 2 ans.
Oui, mais comme beaucoup de techno, elle a une longue histoire, la reconnaissance vocale, et en fait quand même. Bon, maintenant, je m'y connais moins en reconnaissance vocale, donc je peux pas te... Mais disons que les grandes familles d'algorithmes qu'on utilise aujourd'hui étaient déjà connues, étaient déjà les grandes familles d'algorithmes en 1995, si tu veux. Et donc, moi, j'ai cherché à faire de la reconnaissance vocale très simple. Tu vois, j'ai pas essayé de faire de la reconnaissance vocale comme la machine à dicter. Je parle à l'ordinateur et il comprend ce que tu... Enfin, il entend ce que tu dis. Moi, j'ai essayé de faire de la reconnaissance vocale fonctionnelle. Dans quelle fonction on peut utiliser la reconnaissance vocale? Mes premiers clients, ça a été les aveugles. Donc, je faisais des outils pour les aveugles, pour qu'ils puissent facilement prendre des notes, facilement retrouver leur numéro de téléphone, facilement retrouver leur rendez-vous. Donc ça a été le premier produit Parrot. Un semi-échec, mais un semi-échec très, très constructif.
Mais pour revenir juste à tout juste avant ça, comment, enfin, tu quittes Louboutin, tu crées ça, comment, enfin, en 94, c'est un chantier de mastodonte, enfin, faut te financer, faut comment...
Alors, comment je fais? Vraiment, la start-up, c'est-à-dire que Donc, quand j'étais à Microarchi, je faisais les ordinateurs de poche. Je connaissais des types qui faisaient de la reconnaissance vocale, donc déjà à l'époque. Donc, je vais les voir, je vois avec eux et je fais un prototype logiciel dans ma cuisine. Donc, j'y passe plusieurs mois, je fais le prototype logiciel. À partir du prototype logiciel, je monte une boîte, j'engage un premier ingénieur. Ça me prend, si tu veux, 6 mois. Mais je savais faire des ordinateurs de poche.
Mais on est vraiment dans le mythe californien de la cuisine, voilà. Du garage,
ouais,
du
ouais,
truc.
Bien sûr, bien ouais. sûr.
Et des mois. Et
donc, je fais un prototype. Je veux dire, la boîte, il y a 3 personnes qui travaillent. Tu vois, il y a un ingénieur hardware, un ingénieur soft et moi. Et puis, malgré tout, j'envoie le dossier par la poste à Sophie Nova et, au Venture Capital de l'époque.
Peut-être un peu seul, Sophie Nova, mais peut-être il n'y avait pas déjà Partech.
Il y en avait d'autres. Ouais, non, il n'y avait pas Partech, mais j'envoie à Sophie Nova et à d'autres, je ne me rappelle plus des
D'accord.
noms. Et coup de bol, si tu veux, Sophie Nova, 15 jours après, je reçois une lettre. Ouais, ça nous intéresse vachement ce que vous faites. Et puis ils sont venus et Sophie Nova a investi 5 millions de francs dans Parrot en 1995, si tu veux. Donc, 9 mois après la création de la boîte. Donc, c'est vraiment une start-up classique. Il n'y a rien...
Moi, je savais pas que Sophie Nova existait déjà à cette époque-là. Mais le pire, je savais pas qu'on pouvait se financer de la manière d'une start-up déjà dans le début des années 90.
Moi, j'étais dans le... Je veux dire, quand j'étais à Microarchi, on voyait déjà les premiers investisseurs en capital risque
en France.
En France. Et on savait qu'il y en avait en Amérique et tout ça, ça existait déjà. Il faut pas, ce n'est pas arrivé en 2010.
Donc en 94, quand tu t'es lancé là-dedans, tu savais que tu pourrais trouver des moyens de te financer.
Oui, bien sûr. Je savais. Donc le premier financement que j'ai eu, c'est Lanvard.
Ouais.
Ça s'appelle plus Lanvard, mais c'est des prêts à taux zéro.
La BPI maintenant.
La BPI, ou... voilà, ouais. C'est l'équivalent de la BPI. Donc c'est Lanvard. J'ai eu 2 millions de francs de Lanvard. J'ai trouvé des angels pour mettre l'équivalent de 2 millions de francs parce que Lanvard, il fallait qu'on trouve le même financement en face. Et puis après, j'ai eu Sophie Nova. Et puis après, deuxième tour, troisième tour, etc. Donc, Parrot, c'est une vraie start-up classique de ce point de vue-là.
Et dans laquelle tu es le fondateur. Tu étais au début tout seul. Enfin, je veux dire
non,
tout seul.
Non. J'avais un associé. J'avais un associé qui était une personne âgée, qui était un ancien directeur d'Alcatel, qui s'appelle Jean-Pierre Talvar. Et si tu veux, c'est avec lui qu'on a monté la proto-startup. Mais je suis quand même le principal fondateur. C'est moi qui ai écrit le code, c'est moi qui ai conceptualisé les produits. Voilà, mais enfin non, on ne fait pas rarement les choses seules, moi, si tu veux.
Bien sûr,
je serais incapable de faire Parrot sans tous les collaborateurs qui travaillent avec moi et dans de très nombreux domaines.
Et du coup, parce que c'est toujours surprenant. Alors déjà, je trouve que le coup de Louboutin qu'on le voit, c'est enfin quand on connaît, quand on le sait pas, c'est toujours très surprenant. Mais voir que Parrot, qui a l'air d'avoir explosé, en tout cas aux yeux du grand public assez récemment, même si on le sait pour les plus vieux, il y a eu des agendas ou des
donc il y a eu le premier truc, c'est l'agenda à reconnaissance vocale,
ouais,
qu'on a vendu aux aveugles. Et si tu veux, une fois qu'on a vendu cet agenda, qu'on a fait cet agenda, mais on a quand même fabriqué 10 000 produits, puis je pense que 10 000. Donc,
en Chine, tout ça
Les premiers 10 000 en France et les deuxièmes 10 000 en Chine. Ouais. Donc j'ai déjà commencé, dès 1996 ou 17, j'allais en Chine faire fabriquer mes produits, chercher des sous-traitants là-bas, etc. Et à l'époque, la Chine, c'était plutôt des industriels de Hong Kong. Mmh. Mais il se trouve que, en fait... Ce sont eux qui ont développé toute l'industrie dans la région de Hong Kong et de Shenzhen. Donc, ma deuxième obsession, ça a été, une fois que la roco-vocale marchait bien, c'était de trouver un débouché dans l'industrie du téléphone mobile qui était en plein boom. À cette époque-là, le numéro un mondial, c'était Ericsson. Et donc, j'ai été voir Ericsson, je leur ai montré ce que je faisais en leur disant moi, ce que je voudrais, c'est vous vendre la reconnaissance vocale pour que vous la mettiez dans le téléphone. Et ils m'ont dit non, ils m'ont dit qu'ils ne savaient pas trop le faire, que les téléphones c'était hyper compliqué à faire à l'époque. Si tu veux, on est il y a 20 ans, donc il y avait pas toute la connaissance et tous les SDK qu'il y a aujourd'hui. Il fallait vraiment partir de from scratch pour faire un téléphone. Ils m'ont dit, mais si vous arrivez à faire marcher votre reconnaissance vocale en voiture, nous on vend beaucoup d'accessoires pour téléphone en voiture et on a des problèmes de sécurité. Donc si ça marche en voiture, ça nous intéressera. Donc j'ai passé. À l'époque, c'était start-up, on perdait de l'argent, le financement de Sophie Nova, ça n'allait pas durer éternellement. Donc, j'ai passé toutes les vacances du mois d'août à lire les proceedings de l'ICASP, qui est la grande conférence de traitement de signal, à regarder comment on pouvait faire marcher la reconnaissance vocale dans le bruit. Je suis tombé sur un ou deux articles super intéressants. On a codé les articles entre le 1er et le 10 septembre. Le 20 septembre, j'étais chez Ericsson. Le 30 septembre, je leur ai fait une démo à tout casser sur l'autoroute entre Malmö et Lund.
Et vous étiez concrètement quatre dans une voiture.
Ouais, exactement, quatre dans une bagnole. Les mecs mettaient du bruit à fond. La reco a tout à marcher. On a eu de la chance peut-être. Bon. Et hop, j'ai eu mon premier contrat avec Ericsson. Et donc, c'est comme ça que je me suis intéressé au téléphone en voiture.
Et là, c'est un gros contrat, du coup.
C'est un gros contrat pour Parrot, oui, parce que Parrot, c'était vraiment une start-up qui tenait dans... C'était une start-up de 10 personnes à l'époque. Et donc, c'est notre premier contrat. Et si tu veux, on galère avec ce contrat, mais on bosse avec Ericsson, on va jusqu'au bout du truc. Et puis, on s'aperçoit qu'effectivement, le téléphone mobile, c'est un super business, que le téléphone en voiture, c'est un super problème. Et là vient le fait que on apprend que il y a un consortium Bluetooth qui se crée et que et là tout de suite je me dis ouais mais la seule solution pour faire des bons téléphones de voiture c'est Bluetooth parce que tous les téléphones sont différents, les Nokia sont comme ci, les Motorola sont comme ça, les Ericsson sont encore différents. Donc, il faut qu'il y ait un standard et le seul standard sur lequel les fabricants de téléphones travaillaient, c'était Bluetooth. Et donc, nous, on a adhéré quasiment le premier jour au consortium Bluetooth en se disant qu'on allait faire des téléphones de voiture à reconnaissance vocale Bluetooth.
Et alors, est-ce que tu sais, je crois que je vais t'apprendre quelque chose. En toute humilité, peut-être pas, tu vas me dire non, mais évidemment, je le sais. Mais en faisant ça, tu as participé bien des années plus tard à l'explosion du podcast. Parce qu'aujourd'hui, si le podcast audio a un tel succès dans le monde, c'est grâce au Bluetooth, c'est grâce au device Bluetooth en voiture et ailleurs d'ailleurs. Mais le fait qu'on n'écoute plus de CD, plus de choses comme ça et qu'on utilise son téléphone pour écouter de la voix fait que participe, mais très grandement à l'explosion du podcast.
Bon, c'est pas moi, si tu veux, qui fait exploser le podcast, mais c'est vrai.
Mais l'automotive, le device dans la voiture notamment.
Voilà. Ouais. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est la vitesse à laquelle les us et coutumes ont changé. C'est-à-dire qu'on est passé de la radio au CD en voiture. Aujourd'hui, sincèrement, avec un système main libre Bluetooth et un smartphone, t'as besoin de rien dans la voiture. T'as Waze, t'as Spotify, si t'as une bonne liaison Bluetooth et t'as le téléphone, je veux dire, qu'est-ce que t'as besoin de plus dans une voiture?
On n'a même pas besoin de l'ordinateur de bord.
Donc finalement, j'ai vraiment mis le doigt sur un truc vraiment vachement bien. Et Parrot, ça faisait déjà 5 ou 6 ans, la startup galérait, etc. Et en plus, il y a eu la crise de 2001, c'est-à-dire l'effondrement du Nasdaq, puis les tours jumelles en Amérique. Donc, c'était une grosse crise aussi forte que 2008. Et donc, c'est en plein milieu de la crise de 2001 que nous, on lance le téléphone Bluetooth en voiture. Et au fond, ça a été notre chance. Parce que pendant cette crise, Nokia a fermé une partie de ses centres de développement. Motorola a fermé une partie de ses centres de développement. Les premiers centres de développement qu'ils ont fermés, c'est les trucs périphériques, c'est-à-dire c'est les trucs de faire des accessoires pour l'automobile. Donc, ils n'ont pas développé le Bluetooth en voiture, alors qu'ils avaient toute la techno, qu'ils étaient prêts à le faire. Mais comme c'était la crise, ils n'ont pas pu investir autant qu'ils souhaitaient. Et donc, j'étais quand même la seule boîte qui avait fait sérieusement, avec un bon background d'ingénierie, les téléphones Bluetooth pour les voitures. Et j'ai commencé à les vendre en B2C. Et puis, je me suis dit, si je veux faire du succès, il faut que je les vende en B2B. Et donc, j'ai monté une équipe pour vendre les systèmes Bluetooth en B2B. Et ça a été un succès, un grand succès. C'est comme ça que Parrot est passé de 10 millions à 200 millions de chiffre d'affaires en 4 ans.
10 millions à 200 millions en 4 ans. Et là, tu es sorti de ta zone de confort parce que tu as dû aller convaincre des clients B2B, quoi.
Oui, mais j'ai une équipe commerciale qui l'a fait, etc. Donc, à cette époque-là, on était les seuls à avoir vraiment une techno de bon niveau. Parce que tu sais, c'est quoi la techno de bon niveau ? C'est des très bonnes performances et un très bon debug et aussi une très bonne couverture fonctionnelle. Tu vois, pourquoi Word, c'est mieux que tous les autres traitements de texte ? Parce que dès que tu veux faire un truc, ben, y a la fonction dans Word. Si tu veux mettre, des notes en bas de page, ben, tu as des trucs dans Word, tu vois. Donc nous, on avait fait le téléphone Bluetooth dans la voiture avec tous les détails, toutes les fonctions, d'une manière très, très raffinée. Et donc ça a été le premier succès de Parrot.
Et comment tu passes, alors au-delà du commercial, je veux dire, d'une boîte de 10 à 200 millions? Enfin, toi, tu changes en 4 ans, tu changes 5 fois de métier. Je veux dire, au début, tu es un manager d'une petite start-up, tu finis un PDG d'un truc...
Plus dur, c'est manager d'une start-up. C'est pour ça que souvent, tu vois des gens qui se lancent dans des start-up, qui ont des bonnes idées, qui sont bons techniquement, mais est-ce qu'ils sont aguerris assez comme businessmen, tu vois. Est-ce qu'ils vont comprendre que un client doit être encadré par un contrat, qu'il faut bien le négocier, que c'est la même chose avec les investisseurs, etc. Le plus dur, c'est startup.
Pour toi, c'était plus dur à l'époque que maintenant.
Ouais, maintenant c'est dur parce que il faut que je redresse la boîte. Maintenant, je suis redevenu startup, si tu veux. Donc, je suis dans une période qui est difficile. Pour laquelle j'ai un plan, j'ai une idée précise de ce que je vais faire, mais je suis dans une période difficile. Mais quand même, le plus dur, c'est start-up. Avoir une boîte plus grande, c'est pas plus dur. Si tu veux, la grosse difficulté à laquelle je me suis heurté, c'est que le succès de Parrot, ça a été le B2B dans les télécoms pour l'industrie automobile, et que c'est quand même une question de rythme de travail, de rythme d'innovation et de besoin des clients qui est difficile à accorder entre la start-up et le grand groupe. D'ailleurs, les grands groupes, malgré tout, ont beaucoup, beaucoup de mal à faire travailler des start-up. C'est pas parce qu'on se comprend pas techniquement, mais c'est parce que les objectifs de développement des projets sont assez différents. C'est-à-dire qu'un grand groupe, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut être certain que ça va marcher, qu'il ne va pas avoir des voitures qui tombent en panne. La start-up, elle veut être certaine qu'elle fait une innovation et que personne va le faire. Bien sûr, il faut marier les deux, mais c'est difficile d'y arriver. Donc, avec le téléphone Bluetooth en voiture, le business case était super clair. Les gens voulaient téléphoner en voiture. Et puis, on a commencé à avoir 1, 2, 3, et puis 10, 15, 20 clients. On l'a vendu à tous les fabricants de voitures allemands, à tous les fabricants de voitures japonais, à une bonne partie des fabricants de voitures américains. Donc,
et les Français, évidemment, ou
les Français, on a eu beaucoup de mal parce que c'est organisé un peu différemment. Et puis, il y a quand même cette barrière tout à fait connu, en fait, qui est biblique, si tu veux. C'est nul n'est prophète en son pays. Ouais. Donc, c'est beaucoup plus difficile de faire rêver un Français quand t'es Français que de faire rêver un Français quand t'es Américain.
Et donc, du coup, là-dessus, c'est assez intéressant parce que t'as un des succès. T'es une forme d'équipementier auto, hein, directement. D'ailleurs, je crois que c'est la nouvelle du moment, non ? On parle du rachat de cette partie de...
Donc, voilà. Donc, on a eu pas mal de succès. Et après, si tu veux, moi, voilà ce que je me suis dit. Je me suis posé une question d'entrepreneur. Je me suis dit, bon, ça y est, ça marche. On vend des millions de téléphones de voitures Bluetooth. Mais dans la technologie, les choses ne durent pas longtemps. Donc, faut bien savoir que...
Quand tu dis, pardon, des téléphones de voitures Bluetooth, c'est-à-dire que ce sont des téléphones qui sont dans les voitures. C'est pas...
Non, c'est un bidule que tu vois pas, qui fait la téléphonie.
D'accord.
Et qui est Bluetooth. Mais au fond, c'est le système de téléphonie de la bagnole. Si
d'accord.
Tu veux. Les gros problèmes, la grosse difficulté, c'est l'acoustique. Donc, il faut faire toute une acoustique numérique à base de traitement de signal qui est vraiment très, très technique. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, c'est connu, mais à l'époque, il y a 20 ans, faire un bon téléphone main libre, il n'y avait que Polycom qui savait vraiment le faire. Et pas en voiture, c'est-à-dire hors bruit, etc. etc.
Henri me montre une pieuvre Polycom qui est sur son bureau et d'ailleurs, ça me fait marrer parce que tu dis qu'il n'y avait qu'eux qui le savaient le faire et que c'est très compliqué. Mais nous, chez Cosa Vostra, au bureau, on cherche la pieuvre Bluetooth qui fonctionne bien depuis 4 ans et on ne l'a toujours pas trouvée.
Voilà. Donc, faire un bon téléphone main libre en voiture avec du bruit. On a trouvé un labo qui est le labo de traitement de signal de Télécom Paris où ils connaissaient une des deux parties qui s'appelle annulation d'écho, mais ils connaissaient la théorie, mais pas bien la pratique. Donc la pratique, on l'a bien découverte, elle est très compliquée. Il faut conditionner l'algorithme, en fait, dans un domaine de fonctionnement dans lequel il ne va pas diverger, tout ça. Et ça, c'est assez difficile de trouver le bon conditionnement.
Et là, vous brevetez après brevet, après brevet ?
Ouais, on brevette, mais tu sais, les brevets, il ne faut pas se faire d'illusions, c'est fini. Et les brevets, c'était pour le 19e siècle, peut-être le début du 20e siècle, mais aujourd'hui, les brevets n'ont pas de valeur. N'ont pas de valeur définitive. Il faut breveter pour se protéger, mais personne n'invente plus rien d'un point de vue fondamental.
D'accord.
Tu peux pas prétendre que tu as inventé... Moi, je peux pas prétendre que j'ai inventé le téléphone Bluetooth en voiture. J'ai pris des algorithmes, j'ai compris le use case, j'ai inventé des questions de détail, mais c'est il y a tellement de questions qu'il y a déjà des brevets sur les familles d'algorithmes de réducteurs de bruit, les familles d'algorithmes d'annulation d'écho, etc.
Pourtant, dans tes métiers de l'électronique, il y a des énormes batailles de brevets entre Samsung, Apple, etc.
C'est fini tout ça. Ça, c'était il y a 7-8 ans, mais c'est fini. D'une certaine manière, la bataille de brevets entre Samsung et Apple a été... une grosse défaite pour Apple. C'est-à-dire qu'au fond, Apple, le portefeuille de brevets d'Apple n'a pas de valeur, ou très peu de valeur, et ils n'ont pu se défendre que sur des trucs vraiment marginaux.
Donc c'est une bonne chose, ça, quand même. Dans le
très problème. Bonne chose. Ouais. Pour les startups.
Je ne parle
pour
pas Apple, d'Apple, d'ailleurs, mais voilà. La fin des brevets dans l'absolu, c'est...
La fin de l'importance des brevets. Alors, ouais. Il reste quand même que les brevets, c'est un système de droit. Et donc, il y a quand même des sociétés qui détiennent des tonnes de brevets et qui en font un business, si tu veux. Et donc, il y a ce qu'on appelle les patent trolls où tu peux quand même te trouver dans des situations, il faut que tu te défendes au tribunal contre des gens qui demandent des brevets. Mais il se trouve que aujourd'hui, même Apple qui invente le smartphone et Android et Samsung qui le réinventent d'une autre manière mais qui s'en inspirent beaucoup, finalement, ils ont le droit de le faire. Et c'est raisonnable parce que moi, je te dis que j'étais dans cette startup qui s'appelait MicroArchi les années 80. On faisait un truc qui était proche d'Android au fond. Donc, je veux dire, 15 ans avant que ce qu'Apple a mis en œuvre dans les téléphones, ou même peut-être 20 ans.
Moi, je te propose d'accélérer parce que j'ai pas un temps limité avec toi, donc je vais en profiter comprendre un peu comment t'es passé de ce monde de l'automobile qui est quand même très finalement industriel
au drone
et donc je sais pas, c'est officiel, j'ai vu passer quelque chose cette semaine qui disait que c'est justement Parrot Automotive
c'est-à-dire que je l'ai vendu il y a environ 2 ans à Faurecia.
D'accord.
Dans un partenariat, et que le partenariat fonctionnait pas mal, et que donc maintenant Faurecia a pris 100%
d'accord.
De Parrot Automobile.
Et tu dis que cette partie de la boîte est passée de 10 à 200 millions, et au total, au zénith, au maximum, elle est passée à
Parrot Automobile, au maximum, ça faisait 200 millions.
200 millions.
200 millions de chiffre d'affaires.
Rentable.
En étant très, hyper rentable. Hyper rentable à cette époque-là. Ça a été hyper rentable. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, je suis entrepreneur. Donc, j'ai investi tout cet argent qu'on a gagné en me disant le truc suivant. Moi, je ne veux pas me retrouver comme Apple ou comme Nokia. Je veux dire, si je n'invente pas continuellement des nouveaux produits, ça ne va pas durer éternellement le téléphone Bluetooth de voiture. Donc, je me suis dit, ma spécialité, c'est les télécoms pour l'automobile. C'est quoi la prochaine chose ? La prochaine chose, ça va être la techno du smartphone en voiture. Donc, il y a, je pense, presque 10 ans, on a commencé, dès qu'Android est sorti, le lendemain, on a commencé à prendre Android et à faire des systèmes de automobile avec Android. Donc ça, ça a été un des investissements de Parrot. Et ça a été un demi-échec. C'est pertinent, ce qu'on a fait est hyper pertinent techniquement. On a eu pas mal de clients, mais les grands clients ont peur de s'allier à un géant de l'informatique. Mais je pense que...
Je parle de Google, pas de toi.
Je parle de Google, oui. Donc, si tu veux, pour un fabricant de voitures, en imaginaire, parce que ce n'est pas un KRL, mais pour Volkswagen, ils ont peur de se dire que s'ils commencent à mettre Google dans la voiture comme il est mis dans un téléphone Android, peut-être que Google aura accès aux données de ses clients.
C'est pour ça qu'ils ont eu pendant des années leurs propres OS qui étaient toujours pourris.
Qui étaient en retard, très très fortement en retard. Mais ils sont aussi fortement en retard à cause de leurs méthodes de développement qui ne sont pas adaptées à l'industrie du logiciel. Donc on ne peut pas dire non plus que c'est à cause du fait qu'ils ne soient pas capables de nouer une alliance avec Google qu'ils sont en retard dans la voiture. Ils sont aussi en retard parce qu'ils développent la voiture avec un certain genre de cycle industriel alors que dans la techno, le cycle, c'est développement continu.
Ouais.
C'est-à-dire, tu vois, un soft, tu fais la version 1.0, puis dès que tu l'as fait, tu fais la 1.1, la 1.2, la 1.3,
ouais,
la 2.0. C'est, ton développement doit être continu et c'est la seule manière d'amener de la qualité. Alors que l'automobile, ce n'est pas fait comme ça.
C'est ce que j'essaie d'expliquer à mes clients, ouais. Généralement, mais que ça ne se finit pas, oui. Et du coup...
Donc, j'ai fait ça pour l'automobile et puis je me suis dit, mais si je ne fais pas des nouveaux produits, la boîte va disparaître. Et donc, moi, mon idée, c'était, bon, on peut devenir un leader des produits électronique autour du téléphone portable. C'est pour ça que je me suis lancé dans la musique et j'ai fait plein de produits musicaux. J'en ai fait 7 ou 8 avec beaucoup de plaisir. Et puis, je voulais me lancer aussi dans le jeu vidéo. Je me suis dit, on va faire des jeux vidéo avec les téléphones. Et c'est
dans la musique, pardon, c'était...
Les casques
et
les enceintes Wi-Fi. J'étais le pionnier des enceintes Wi-Fi et le pionnier des casques à base de traitement de signal. Vraiment très, très en avance sur leur temps. Alors là, vraiment, là, on a bien montré que chez Parrot, on avait un bon sens de la technologie, du produit. Je veux dire, les produits qu'on a développés en Bluetooth et en Wi-Fi pour la musique, c'est des produits dont les form facteurs qu'on a développés ont un succès énorme.
Mais je fais un petit break, un tout petit instant pour te remercier, Henri, parce que je crois que quand même dans tous les produits, peut-être pas dans les produits automotifs, en l'occurrence grand public, j'ai à peu près acheté toutes les versions 1, où on me les a offertes, d'ailleurs, ma femme, que je dois remercier, Lucie, du casque Zik, la version 1 du drone, j'ai même le Flower Power, je vois tout ça, je montre parce que j'ai un mur de produits devant moi. Mais finalement, j'ai aussi un petit regret parce que quand même, les versions 2 et 3 sont souvent mieux.
Tu sais que c'est un adage, il ne faut pas acheter la version 1.
Ouais. surtout sur le drone. Alors le drone, il y a un gap tellement gigantesque entre la version 1.
Ouais, sauf que tu as raison, mais entre la version 1 et la version 2, il y a un gap gigantesque.
Ouais.
Entre la 2, et donc le drone, ça a été très, 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 très vite. Mais moi, mon projet, c'était de faire des vidéos game en réel, si tu veux.
Génial.
Tu vois, ouais. Et avec ton téléphone. Et finalement, je me suis trompé, c'est pas ça qui a marché. Ce qui a marché, c'est le drone n'est pas un jeu. Mais le drone est un robot vachement sophistiqué qui permet surtout de prendre des images et de faire soit de la prise de vue, soit de la collecte de données pour faire du big data en outdoor. Donc le drone, c'est un produit majeur de l'arrivée de la robotique aujourd'hui.
Mais finalement, peut-être pas si grand public du coup, c'est ce que tu dis ?
Si, c'est vraiment grand public. Le drone, c'est à la fois grand public et à la fois un robot vraiment majeur. Bien sûr, parce que toute la révolution de la high-tech est une révolution grand public. Toi, là, par exemple, tu tapes tes notes sur un PC, c'est personal computer. Dis-toi bien que pour IBM, l'idée que la direction d'IBM demande aux ingénieurs de faire un personal computer, ça a dû dégoûter plus d'un ingénieur, tu vois. Mais la révolution de la high-tech, c'est une révolution grand public. Tous les produits révolutionnaires de la high-tech, le drone y compris, le casque Bluetooth y compris, mais le PC, le smartphone, la GoPro, les enceintes Bluetooth, tous ces produits-là, toutes ces technos viennent du grand public.
Et donc du coup, là tu t'es lancé dans cette vague et on a l'impression en effet qu'il y a eu une montée, une redescente. Alors je sais pas exactement chez toi, mais justement tu parles de GoPro là, je vois des Joe Bones, je vois des choses comme ça en fait où vu de l'extérieur, alors moi je trouve ça, je suis impressionné, ça me rend dingue ces objets, je trouve ça fou et fascinant à la fois, et le drone en plus se fait se poser plein de questions, que ce soit dans les nanos, dans le militaire, dans des tas de choses, on se dit jusqu'où ça va aller. Mais on a eu l'impression qu'il y a eu un raz-de-marée grand public et une sorte de redescente après que GoPro, par exemple, a eu du mal à gérer.
Non, c'est pas ça, c'est pas ça.
Alors
c'est, si tu veux, il y a énormément de succès grand public dans des startups, mais malgré tout, c'est une industrie très très capitalistique, très difficile, dans laquelle il faut énormément de capitaux pour qu'elle marche. Et finalement, le produit gagnant, ça a été le smartphone. Donc, le smartphone, les produits Parrot, ils sont fabriqués par centaines de milliers d'exemplaires. Le smartphone, c'est fabriqué par centaines de millions d'exemplaires pour les leaders mondiaux. Donc, si tu veux, il y a un facteur 100 entre les drones et les téléphones.
Donc, le contrôleur et le contrôlé. Quoi.
Voilà. Et donc, ça a été la même chose pour la GoPro. La GoPro, c'est un produit extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Petit 1, les caméras des téléphones sont vraiment devenues très, 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 très bonnes. Donc, il y a moins de raisons d'acheter une GoPro aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Et puis, deuxièmement, donc c'est surtout Apple qui a bénéficié de la GoPro. Et puis deuxièmement, il y a tous les industriels du drone qui ont développé des caméras volantes, et donc ça a ruiné un peu le marché de la GoPro. Donc moi je me bats toujours contre ça, c'est que les produits peuvent avoir des succès énormes, tu peux faire des ventes de centaines de millions de dollars, mais il faut pas croire que ça dure. Il faut jamais penser qu'un concept de produit, tu vas pouvoir le garder longtemps.
D'où ton innovation permanente sur déjà des lignes de produits, et dans chacune de ces lignes de produits...
Chaque fois que je lance un nouveau produit, je joue ma vie. Hein. Tu sais, je veux dire, que serait Airbus sans l'Airbus A320? Que serait Apple sans l'iPod? Que serait Google, je veux dire, la téléphonie mobile sans Android. Je veux dire, ce qui motive la high-tech, c'est le succès. Donc, et il faut absolument rechercher le succès parce que on ne fait pas de la techno au sens de développer des filières un peu à l'ancienne, comme l'industrie chimique ou l'industrie de la mécanique ou fabriquer des voitures, l'industrie automobile. La high-tech, c'est une industrie qui ressemble beaucoup plus au cinéma qu'à l'industrie traditionnelle. Ce que les gens cherchent, c'est à faire des hits. Apple, ce qu'ils font, c'est des hits. En faisant l'iPod, en faisant l'iPhone, c'est des hits qu'ils font. C'est pas de la techno. Et moi, c'est pareil, je cherche à faire des hits.
Le cinéma, c'est d'ailleurs une affaire familiale, toi, autour, à côté, à
donc
droite,
dans ma
à
famille, il y a beaucoup de producteurs de cinéma. Mon père est producteur de cinéma, ma fille est actrice, donc je suis un peu le seul qui a mal tourné.
Geek de la famille.
Voilà, je suis un peu le geek de la famille.
Et du coup, dans tout ça, c'est quoi ton actu du coup, autour de tout ça? Alors, on a parlé de la session.
Mon actu, c'est Anafi. Donc, Anafi, alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a 2 ans, on a eu beaucoup de succès avec les drones. Et puis après, j'ai eu beaucoup de concurrence. Et donc, je me suis dit, écoute, si je repense pas toute la nature de qu'est-ce que c'est un drone pour Parrot, j'y arriverai pas. Donc j'ai arrêté tous les projets de l'entreprise, j'ai tout arrêté.
C'est-à-dire quoi, t'as dit un jour on arrête?
J'ai arrêté tous les projets en cours, j'ai vendu l'automobile, j'ai arrêté l'audio, j'ai arrêté les drones qu'on est en train de faire parce qu'ils n'étaient pas bien ciblés, pour faire un produit qui est le drone remodernisé qui s'appelle Anafi, qu'on vient de lancer il y a un mois et dont l'accueil est très très bon. Et on pense que, et donc si tu veux, je suis un peu comme Apple en 1995 lançant l'iPod 1. Donc j'ai une idée précise dans quelle direction je vais amener la boîte pour les drones et je me donne 2 ans pour refaire de Parrot un grand succès.
Je me permets de corriger, 2005, hein, iPod 1, j'imagine, plus que 95. Oui,
ouais,
ou 2004, 2003.
Disons, Steve Jobs, il revient quand
dans c'est le lancement des ordi portables.
Si tu veux, il aura fallu pas mal d'années,
oui.
Même avec les bonnes idées, même avec le best CEO of the industry, de redresser la boîte. Donc moi, je suis à peu près à ce stade-là. Donc j'ai lancé mon produit. Je reconstruis la boîte autour de ça et je revis Parrot comme une start-up et sincèrement c'est dur mais je prends vraiment du bon temps.
Anafi qu'on voit donc dans ton bureau là juste en face de toi et donc tu arrêtes Zik, tu arrêtes
C'est arrêté depuis un an c'est fini je crois.
D'accord.
Donc je ne fais plus que je recentrais toute la boîte sur Anafi, c'est-à-dire un drone de petit format avec un niveau fonctionnel qu'on n'a encore jamais vu.
Ok. C'est quoi aujourd'hui, Henri, ton moteur ?
Moi, mon moteur, c'est de vivre. Tu sais, je pense que si je bosse pas, je dépérirai, si tu veux. Donc moi, mon moteur, c'est mon imaginaire, c'est développer la boîte et on a fait des très bonnes choses et puis ben on a eu des crises et là on est un peu au fond du gouffre. On verra bien de quoi l'avenir nous réserve. Est-ce que je vais réussir à remonter Parrot? Est-ce que Parrot redeviendra ce que ça a été, c'est-à-dire une des toutes meilleures startups européennes et boîtes de techno européennes? Ben c'est ça qui me fait avancer.
Ça t'empêche de dormir?
Bien sûr, ça m'empêche de dormir et en même temps c'est mon imaginaire, si tu veux, que je suis. Donc, j'aime bien ça. J'aime bien tomber sur une idée, me mettre à mon ordinateur à minuit, à 4 heures du matin, faire un mail avec 5 dessins aux ingénieurs. Et puis, c'est ça ma vie.
Et du coup, en effet, pour tes proches, tu parlais de tes enfants, mais du coup, tu es en permanence dedans.
Bien sûr, bien sûr. Je veux dire, je ne sais pas s'ils vont écouter ce podcast, mais c'est sûr que moi, je trouve pas du tout que je sois un bon père, ni attentif, ni suffisamment fin, tu vois, pour les entendre. Bon, enfin, je veux dire, c'est quand même un truc. Si j'ai un regret, c'est quand même celui-là. Mais malgré tout, j'ai pas su y faire et c'était au-delà de mes capacités. Donc, bon, voilà, quoi. J'ai fait de mon mieux et au fond, ce qui m'a été le plus facile, mais aussi qui m'a pris tout mon temps, c'est de faire ma boîte.
J'ai l'impression que tu as des enfants assez talentueux quand même, malgré tout. Donc, c'est peut-être pas grâce à toi, mais...
Ouais, mais c'est pas grâce à moi, c'est grâce à eux.
D'accord. Est-ce que, si tu devais donner un conseil à Henri, le Henri qui sort du palace et que tu avais... l'occasion d'aller le voir et lui dire
le conseil que je me donne perpétuellement, si tu veux, c'est que il faut suivre ses propres opinions, il faut développer son imaginaire, il faut aller de l'avant et que la seule façon de le faire, c'est de le faire bien. C'est-à-dire on reprochera jamais à un artiste d'avoir fait un opéra complètement dingue, un film complètement dingue, à condition, même s'il n'a pas un succès commercial énorme, à condition qu'il y ait été à fond. Tu vois, il paraît que le film de Jean Renoir le plus connu, c'est... comment il s'appelle ? Un dimanche à la campagne ou un truc comme ça ?
Un long dimanche de fiançailles. Non, hein ? C'est pas un long dimanche de fiançailles. Non.
Pas bon.
Ah, pardon.
De Renoir le plus connu, il sort avant-guerre et c'est un échec énorme.
Oui, autant pour moi.
Et c'est un chef-d'œuvre du cinéma. Donc, si tu veux... moi, le conseil que je me donne, c'est qu'il faut, il faut avoir le culot d'y aller à fond, mais que quand tu décides d'y aller, il faut le faire bien et il faut se donner à fond. Et c'est comme ça que je suis passé du téléphone de voiture à la musique pour les téléphones, à une première idée du jeu vidéo et du drone, et maintenant faire les drones, à faire Anafi, et je pense que je vais y arriver malgré toutes les difficultés de la boîte. Voilà,
écoute,
je te remercie.
Henri, je te dis merde, je te remercie pour ce bon moment et puis ben une grosse merde pour Parrot et toute cette sincérité. À bientôt.
Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à deux personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@causavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.